Ivan Provorov, défenseur des Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey, a refusé de revêtir un maillot sur le thème de la fierté et de jouer avec un bâton de hockey enveloppé de rubans arc-en-ciel lors de l'échauffement d'avant-match de la nuit de la fierté annuelle de l'équipe. Il est intéressant de noter qu'il s'est retrouvé au cœur d'une controverse pour avoir refusé de le faire. Ce qui est assez étonnant, c'est que, au moins pour cette occasion, il semblait être le seul à s'y opposer. On imagine les joueurs de hockey comme plutôt rudes et turbulents, plutôt forts et robustes. Et l'on peut se demander s'il est le seul à ne pas être d'accord avec le sujet. Ont-ils tous cédé au mouvement de la fierté? Ou étaient-ils tout simplement trop effrayés pour se lever comme lui, sachant qu'il y aurait une controverse? Certaines de ces situations peuvent entraîner le renvoi d'un joueur d'une équipe, peut-être pas immédiatement, mais plus tard. Pourtant, cet homme a eu le courage de se lever et de dire « Je ne le ferai pas ». Je me demande ce que vous feriez dans les mêmes circonstances. Et moi, je dois me regarder aussi dans le miroir et me dire, que ferais-je, moi, dans ces circonstances? Il est facile de dire, oh oui, moi aussi, je me tiendrai debout. Mais cela demande du courage, n'est-ce pas? J'ai entendu parler d'un cas récent, où un étudiant, et je crois qu'il s'agissait d'un membre de l'Église ou du fils d'un membre de l'Église, je ne suis pas tout à fait sûr des détails, à qui l'on a demandé de quitter la classe parce qu'il avait simplement donné des faits historiques qui n'étaient pas en accord avec l'agenda woke qu'on leur faisait miroiter. Il connaissait l'histoire et il était capable de l'évoquer et de souligner l'erreur de ce qui était dit, et c'est pourquoi on lui a demandé de quitter la classe. Récemment, on a dit à une jeune femme qu'elle ne pouvait pas mentionner le nom de l'ancien président des États-Unis dans son débat sur la politique de l'actuel président. Or, ce que vous pensez de l'ancien président n'a que peu d'importance. Monsieur Smith et moi-même recevons parfois des commentaires désagréables de personnes nous accusant d'être pro-Trump ou anti-Trump. Il est intéressant de constater que chacun d'entre nous peut-être, semble-t-il, les deux à la fois. Voici une société qui aime le débat. Et pourtant, elle ne veut pas qu'on utilise le nom de l'ancien président. C'est comme dire que vous ne pouvez pas parler d'Achab en tant qu'ancien roi d'Israël. Vous ne pouvez pas parler de lui de cette manière. Vous ne pouvez pas parler de Moïse ou d'Aaron ou de quelqu'un d'autre qui vous a précédé. Cela est étonnant, venant d'une société de débat où la libre circulation des idées devrait être assurée. Je pense dans le sens du monde, bien sûr, je ne parle pas de ce à quoi nous penserions, parce que la liberté d'expression n'est pas exactement à l'ordre du jour. Dieu nous dit qu'il y a des paroles et des idées qui sont incorrectes ou mauvaises à dire. C'est quelque chose que nous ne devrions pas faire. Mais dans ce monde où nous sommes censés avoir la liberté d'expression, c'est une chose étonnante. Thomas Paine a écrit une série de pamphlets. Il ne les a pas signés de son propre nom, mais les a signés « Bon sens ». C'était à l'époque de la guerre d'indépendance américaine. Il commença dans son tout premier pamphlet avec ces mots mémorables, qui sont aussi le titre de ce sermon. Les temps présents éprouve l'âme des hommes. C'était un temps d'épreuve, un temps de test pour ceux qui vivaient dans les 13 colonies américaines de l'époque. Ce que M. Paine disait, c'est que ce sont des temps nécessitant du courage, des temps qui mettent les gens à l'épreuve et qui montrent s'ils sont courageux ou lâches, qui montrent de quoi ils sont faits, de quel métal ils sont faits. Aujourd'hui, je vais donc aborder le sujet du courage, pourquoi il est nécessaire, et comment agir avec courage aujourd'hui et à l'avenir. Car nous vivons à une époque qui met l'âme des hommes à l'épreuve, et la situation va empirer avant de s'améliorer. J'ai fait une recherche sur le sujet du courage sur le site Internet de l'Église, en allant sur mondedemain.org, et on peut écrire un mot ou une phrase dans la barre de recherche. J'ai donc écrit « courage » et j'ai été surpris de voir le nombre de fois où le nom de M. Meredith est apparu en lien avec ce sujet. Il a écrit et parlé beaucoup du courage au cours de sa vie. Par exemple, en 2000, la revue du Monde de demain de mai-juin contenait un article intitulé « True Christians Need Courage ». Les véritables chrétiens ont besoin de courage, disponible en anglais seulement. Et vers la fin de sa vie, juste avant sa mort, il écrivit un article pour Le Monde de demain, mai-juin 2017, « Bâtir la foi et le courage ». Vous savez, nous devons bâtir la foi et le courage, parce qu'il nous en faudra dans les jours à venir. Il est intéressant de noter que depuis qu'il a écrit cet article, il y a 6 ans environ, notre monde est devenu beaucoup plus radical et beaucoup plus hostile à Dieu et à sa parole. Je viens de recevoir un courriel de M. Vahovitch concernant une école primaire de Utah aux États-Unis qui vient d'interdire la Bible. La raison de cette interdiction montre comment certaines choses peuvent vous revenir. Le gouverneur conservateur et le corps législatif avaient adopté une loi qui interdisait l'enseignement de la pornographie et d'autres aspects de la vie dans les écoles. Une seule femme, une seule personne, et je ne veux pas dire qu'elle était célibataire et qu'elle n'avait pas de mari, je n'en sais rien, mais une seule personne a protesté et a dit que la Bible n'était pas digne de nos enfants. Elle l'a peut-être cité, mais l'article que j'ai lu ne le disait pas. Et il est vrai que la Bible parle de violence, mais il y a toutes sortes de violences. Nous avons des dessins animés violents pour les enfants. Nous permettons à des drag queens de parler aux enfants d'âge préscolaire. Mais la Bible, bien que ne faisant pas partie d'aucun cours, a été bannie de la bibliothèque. Et la situation va empirer. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bien pire qu'il ne l'était à l'époque où M. Meredith a écrit cet article sur le fait de bâtir la foi et le courage. Nous vivons donc dans un monde qui exige du courage. En septembre et octobre 2018, j'ai écrit un article pour Le Monde de demain intitulé « L'importance de la liberté d'expression ». La liberté d'expression est encore plus importante aujourd'hui. Dans cet article, je posais la question où je mettais en évidence le fait que beaucoup de gens disent que nous parlons trop de la question LGBTQ et de plusieurs autres sujets. Et pourtant, depuis 2018, nous voyons à quel point ces choses sont omniprésentes et comment elles sont poussées dans les écoles et dans les entreprises. Il est assez étonnant de voir à quel point les entreprises ont été prises d'assaut à ce sujet. Aux dernières nouvelles, la compagnie Anheuser-Busch a perdu plus de 20 milliards de dollars en raison de l'utilisation d'une personne transgenre dans ses publicités. Ensuite, les magasins Target ont proposé des vêtements trans pour enfants. Pensez-y! Ils s'en prennent à nos enfants. Des vêtements trans pour les enfants, je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Semble-t-il que ces vêtements étaient dans les étalages à l'entrée des magasins. Bien que je ne sois pas certain de comprendre tous les détails, puis Target, sous la pression de nombreuses personnes qui n'étaient pas d'accord ont donc déplacé la marchandise à l'arrière des magasins. Et tout le monde a applaudi, pensant avoir gagné. Mais ont-ils vraiment gagné? Auparavant, ce type de vêtements n'était pas disponible dans ces magasins. Puis ils les ont mis à l'avant, près de l'entrée, et les gens se sont plaints. Alors ils les ont mis à l'arrière du magasin. C'est donc 3 pas en avant, hein? 2 pas en arrière, ce qui signifie 1 pas en avant, parce que l'on peut désormais trouver des vêtements transgenres pour les enfants chez Target. La chaîne de magasins Kohl's ne semble pas avoir retenu la leçon. Elle continue de pousser ses idées sans relâche. Il est choquant de voir que les grands magasins, les fabricants de bière et autres compagnies soient si déterminés à faire avancer cet agenda qui ne concerne qu'un très petit nombre de personnes, et qu'ils sont prêts à faire toutes ces choses et à les mettre de l'avant sans relâche. Certains d'entre vous savent ce que c'est, parce qu'ils ont eu des superviseurs ou des patrons woke qui les ont intimidés, et certains d'entre vous ont même décidé de changer d'emploi à cause de cela. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres personnes à travers le pays qui en ont aussi été affectées. Il y aura des moments où il faudra se taire et d'autres où il faudra parler, et nous devons savoir faire la différence. Nous devons faire preuve de sagesse à cet égard. Puisque j'en parle, je dois dire que nous devons faire très attention à ce que nous mettons sur l'Internet. Je pense qu'il est trop tard dans un sens. Nous nous sommes déjà fait avoir. Que vous soyez sur les médias sociaux ou non, vous êtes connus parce que d'autres personnes mentionnent vos noms ou les partagent d'une manière ou d'une autre. Et lorsque le monde voudra s'en prendre à nous, ils sauront qui nous sommes parce que nous leur avons donné toutes les munitions nécessaires pour le faire. Mais il y a des moments où il faut se taire. Il y a des moments où il faut parler. Certains d'entre nous peuvent perdre leur emploi et ne pas savoir quoi faire ensuite. Des décisions devront être prises concernant l'éducation et les carrières de nos jeunes. Où voulez-vous aller en matière d'éducation et de carrière? La pression des pères sera forte pour beaucoup, comme elle l'était apparemment dans la Ligue nationale de hockey pour les hommes adultes. Combien plus envers les jeunes? Dans la Bible, nous avons de nombreux exemples de courage, ainsi que des exemples de lâcheté ou de manque de courage. J'aimerais commencer par ce dernier point en me reportant à Exode 32. Exode 32. Il s'agit d'une situation très familière, mais je pense qu'il est important que nous comprenions le contexte général dans lequel elle s'est produite. Il s'agit de l'incident du veau d'or. Nous le connaissons tous très bien, mais je le reprendrai ici au verset 21. Moïse descendit de la montagne, et il vit le veau d'or, et il vit les danses qui se déroulaient autour de ce dernier. Dans Exode 32, verset 21, Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Il est intéressant de noter que l'expression « un si grand péché » est utilisée dans le contexte de l'adultère. Vous pouvez consulter Genèse 39, verset 9. Genèse 39, verset 9. Alors que Joseph avait été tenté par cette femme, la femme de l'homme pour laquelle il travaillait, dont il était le serviteur, et il dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Chaque fois que nous trouvons l'expression « grand péché », c'était dans ce contexte. Il s'agit donc d'un adultère spirituel chez les enfants d'Israël. Ils servaient un Dieu étranger. N'oubliez pas qu'ils étaient mariés à Dieu. C'était une alliance de mariage, la première alliance. Et ils ont donc commis ce grand péché. Dans Exode 32, verset 22, Aaron répondit « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. » Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Aaron dit immédiatement, « Eh bien, tu connais le peuple. » Bien sûr, Moïse a compris. Moïse comprenait son frère. Il le connaissait. Aaron ne semble pas être un si mauvais individu que cela, et Dieu ne l'a pas écarté pour ce péché qui a été commis à ce moment-là. Mais Moïse lui a demandé, « Que t'a fait ce peuple? » Il savait qu'Aaron ne le ferait pas de lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons parfois penser qu'Aaron était terriblement méchant, mais en réalité, il n'a tout simplement pas eu le courage de se lever. Et il est tombé dans le péché. Il a permis au peuple de pécher. Verset 22, « Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Le veau a sauté hors du feu. J'imagine que lorsque ces mots sont sortis de sa bouche, il a probablement voulu les reprendre au même moment qu'il les a prononcés. Vous savez, parfois, nous pensons quelque chose dans notre esprit, ça sonne bien, mais quand nous le disons vraiment, nous réalisons, oh, ce n'était pas la chose à dire, et nous aimerions pouvoir revenir en arrière. Je pense qu'Aaron, je ne sais pas, mais je le pense, a probablement pensé que ce n'était pas une très bonne explication. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'il a été persuadé par ceux qui l'entouraient. Avant de nous précipiter et de condamner Aaron, nous devons nous demander ce que nous ferions face à quelques millions de personnes qui réclament une sorte d'image que nous pourrions appeler Dieu ou qui nous rappellerait Dieu. Ils étaient habitués à ce genre de choses en Égypte. Il est facile de penser que l'on ne le ferait pas cela. Mais permettez-moi de vous poser la question suivante. Si vous ne le feriez pas, qu'en est-il des autres choses que vous n'avez pas le courage de faire? Parfois en dépit de la pression de vos pères? Qu'en est-il de l'obéissance à Dieu, qu'il s'agisse de payer la dîme, de respecter le sabbat ou d'aller à la fête? Je pense que la plupart d'entre nous réussissent ces tests. En fait, beaucoup d'entre vous ont passé le test du courage lorsqu'ils ont quitté l'Église universelle de Dieu, sans savoir exactement où aller, mais en sachant qu'ils ne pouvaient pas rester là à cause de la direction que suivait cette dernière. Vous avez donc fait preuve de courage dans cette situation. Vous avez également fait preuve de foi. Mais le courage et la foi ne sont pas toujours statiques. Ils ont des hauts et des bas, des flux et des reflux. Selon notre degré de proximité avec Dieu, notre foi ou notre courage peut s'affaiblir un peu, et nous nous retrouvons dans une situation difficile, puis nous faisons quelque chose ou disons quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Je suis certain que c'est ce qui s'est passé avec Aaron. Un autre exemple est celui de Saül, et nous allons nous reporter à 1 Samuel pour l'étudier. J'aimerais commencer au chapitre 10 et le verset 20. 1 Samuel 10, verset 20, où Saül fut choisi. Il avait déjà été oint par Samuel pour être roi, et Samuel arrive en ville, il convoque le peuple, et les versets 20 à 22 disent « Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné, et on le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Je préfère la version King James de ce verset qui dit qu'il était caché parmi le matériel. Il était caché parmi le matériel. Verset 23, on courut le tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple, et il les dépassait tous de la tête. Il dépassait les gens de la tête et des épaules. Il dépassait d'une tête la plupart des gens qui se trouvaient là. Apparemment, c'était un beau, grand jeune homme, basané. Je ne sais pas qu'il était basané, mais en tout cas, il était grand et beau. Sachant qu'il travaillait au soleil, il était peut-être basané. Mais c'était un grand homme, et les gens pouvaient l'admirer. Nous savons aussi que c'était un guerrier. Si vous lisez la suite, Vous verrez qu'il a sauvé la vie de Jabesh-Galéad dans 1 Samuel 11. Il rassembla Israël pour combattre les Ammonites, qui avaient fait une demande plutôt déraisonnable aux habitants de Jabesh-Galéad. Ils leur ont dit, « Venez ici et nous vous crèverons l'œil droit. Sinon, venez vous battre avec nous. » Et ils ont répondu, « Donne-nous 7 jours. Nous voulons réfléchir un peu et voir si quelqu'un peut nous aider. » Vous pouvez lire l'histoire, c'est une histoire assez intéressante. Mais Saül rassembla le peuple. Saül n'était pas une mauviette, mais il était apparemment très timide et il voulait éviter de faire ce qu'il était appelé à faire. Remarquez qu'il y a 3 endroits dans le livre de Samuel qui parlent de cela. Vous pouvez les noter et les lire par vous-même plus tard. 1 Samuel 18, verset 7 est l'un d'entre eux. 1 Samuel 18, verset 7. Ensuite, 1 Samuel 21, verset 11. 1 Samuel 21, verset 11. Et 1 Samuel 29, verset 5. 1 Samuel 29, verset 5. Ces versets disent, « N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? » Nous pouvons nous concentrer sur les 10 000 de David et sur le contraste entre les deux, alors que Saül n'a certainement pas tué tous ces gens à lui seul, mais Saül est un chef. C'était un militaire, comme le sont les rois, et il a été responsable de batailles qui ont tué des milliers de personnes. David est arrivé sur la scène, il en a tué davantage, mais l'essentiel est que Saül n'était pas une mauviette, pas lorsqu'il s'agissait de mener des guerres et des batailles. Mais ensuite, au 15e chapitre, un chapitre qui nous est très familier, 1 Samuel 15, nous voyons que Dieu a dit à Samuel de faire une guerre pour punir Amalek. 1 Samuel 15, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Il a attaqué l'arrière-garde, les plus faibles parmi eux, les retardataires, les femmes, les enfants, les vieillards. Il dit, « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Certains disent, « Oh, c'est terrible, c'est effrayant. » Mais il faut réaliser que cet ordre venait de Dieu. Ce n'est pas la décision d'un homme. Et lorsqu'on regarde le Moyen-Orient aujourd'hui et Amalek, les dirigeants en Iran et ailleurs dans d'autres pays de la région, et qu'on regarde le caractère de certaines de ces personnes, on se dit qu'il aurait peut-être mieux valu que la situation n'en soit pas ainsi. Mais si cela vous pose problème, vous pouvez en référer à Dieu. Versets 4 et 5, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Au verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Nous lisons ensuite comment l'Éternel parla à Samuel et comment il était mécontent de Saül à cause de ce qu'il avait fait. Samuel se rendit donc auprès de Saül et le confronta. Versets 13 à 15, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, verset 15, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Le peuple les a épargnés. « Mais ne t'énerve pas trop, Samuel, car ils l'ont fait pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. » Verset 16, Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. et Saül lui dit « Parle ». Puis nous lisons ensuite au verset 22-23, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Puis ensuite, au verset 24, la conscience de Saül fut apparemment touchée. Et il a dit à Samuel, « J'ai péché. J'ai péché, c'était un aveu. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Et voici la clé. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Est-ce que nous suivons ce que les gens disent? Craignons-nous les gens plus que Dieu? Je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la tentation est grande de le faire. Je pense que dans de nombreux cas, nous commettons probablement tous l'erreur de nous préoccuper davantage de ce que pensent les gens plutôt que de ce que pense Dieu. Combien de personnes ne viennent pas à l'Église parce qu'elles sont plus préoccupées par leurs amis, par leur famille, leurs proches et leurs associés? Lorsque M. Armstrong commença, il s'inquiétait de ce que ses associés penseraient s'ils commençaient à observer le sabbat. Mais une fois qu'il a été convaincu, une fois qu'il a compris, il a décidé d'obéir à Dieu plutôt que de se préoccuper de ce que les hommes penseraient. Néanmoins, selon ces exemples et selon ce que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir, je pense que nous reconnaissons tous qu'il est facile d'être persuadé par les êtres humains. Nous sommes plus préoccupés par ce qu'ils pensent que par ce que Dieu pense. Je me rends compte que la plupart des gens n'ont aucune idée que les tatouages sont condamnés dans les Écritures, je comprends cela. Mais vous voyez l'instinct moutonnier de beaucoup de gens aujourd'hui conduit plusieurs à vouloir se faire tatouer. Et dans la plupart des cas, ils ne s'arrêtent pas à un seul tatou. Ils se font tatouer partout. Pourquoi? Ont-ils décidé d'eux-mêmes, alors qu'ils n'en avaient jamais eu, de le faire et d'aimer cela? Les gens aiment suivre les autres. Je vous ai déjà parlé d'un jeune homme à qui l'on avait posé la question « Êtes-vous conformiste? » Il avait répondu « Je veux être un individu, comme tous mes amis. » Il répondit si honnêtement et si ouvertement qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. En fait, il disait que c'est la nature humaine. J'ai aimé cette honnêteté, parce qu'il disait vraiment la vérité que d'autres ne voulaient peut-être pas dire, même s'ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'il disait. Les gens à l'époque de Jésus s'inquiétaient de ce que tout le monde pensait. Reportons-nous à Jean 9, Jean 9, versets 13 à 22, versets 13 à 22, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Il s'agissait d'une guérison faite par Jésus et qui eut lieu un jour de sabbat. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Il y eut de la division parmi eux, et ils dirent, encore à l'aveugle, au verset 17, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Notez maintenant le verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il est intéressant de noter que leur fils était né aveugle. Et vous devez croire qu'il devait être absolument ravi qu'il puisse voir. Mais malgré cela, il craignait les gens plus qu'il ne craignait Dieu. Et celui par qui Dieu avait agi, Jésus-Christ, pour guérir les yeux de leur fils. C'est intéressant. Ils ont donc dit qu'il était majeur et qu'il fallait lui demander. Reportons-nous à Jean 12. Jean 12. Voir un autre exemple. Il y en a beaucoup que nous pourrions citer dans le Nouveau Testament. Lisons le verset 42. Jean 12, verset 42. « Cependant, même parmi les chefs, il s'agissait donc de personnes qui étaient en charge, d'individus qui étaient haut placés dans la société, ou du moins aux échelons supérieurs de celle-ci. Et on pourrait penser qu'il s'agissait de gens forts et de caractère. Beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Ils avaient peur de perdre leur emploi. Je fais simplement référence aux choses qui peuvent nous arriver. Ils avaient peur d'être renvoyés de l'école. Ils avaient peur de toutes sortes de choses. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Lorsqu'il dit « ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu », cela veut dire qu'ils voulaient être acceptés des hommes. Ce n'était pas que les gens voulaient simplement se faire féliciter ou être loués. Ces versets donnent l'impression qu'ils préféraient être comme leurs amis et les autres autour, plutôt que d'adorer Dieu et de se soucier de ce qu'il dit. La Bible, qui regorge d'exemples de courage et de lâcheté, montre qu'il y avait des gens de caractère, des gens que vous et moi aimerions imiter. Il est intéressant de noter que nous ne voyons pas tous les exemples de ceux qui ont suivi la foule. Nous en lisons seulement quelques-uns ici. Il s'agit de personnes qui auraient dû être des dirigeants et qui ont commis des erreurs, et nous ne les condamnons pas toutes pour cela, mais néanmoins, nous ne voulons pas suivre leur exemple. D'autre part, voici quelques personnes dont nous aimerions suivre l'exemple. Je vais seulement donner quelques exemples provenant du livre de Daniel, avec lesquels nous sommes tous très, très familiers. Dans le premier chapitre de Daniel, nous constatons qu'ils sont déjà en captivité. Les quelques premiers versets indiquent que la nation de Juda et son roi furent amenés captifs par Nebuchadnezzar. Puis l'histoire continue avec ces quatre jeunes juifs, parfois appelés jeunes garçons, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ici que commence leur histoire. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière, et nous devrons spéculer un peu, mais je veux le faire pour le bien de nos jeunes. Je sais que beaucoup de nos jeunes, de 18 ans et plus, sont à Blowing Rock en ce moment, et nous avons une activité spéciale pour eux. Je pense qu'il y a environ 43 ou 45 personnes qui sont là-bas. Il y a 23 garçons et 20 ou 21 filles. Il y a plus de garçons que de filles, mais ils sont là, et ils ont entre 18 et 30 ans. Mais ici, nous en avons d'autres qui sont plus jeunes, et j'aimerais vraiment voir si je peux vous aider à réfléchir. Bien sûr, Peu importe que nous soyons jeunes ou vieux, nous devons toujours réfléchir à ces questions. En fait, M. Smith a donné un sermon sur le sujet des vieux et des jeunes. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Ma femme le regardait ce matin. Il faudrait que j'aille le regarder plus tard. Ces choses s'appliquent à nous, quel que soit notre âge. Je veux surtout m'adresser aux jeunes parce que vous avez grandi dans un monde que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un affront envers vous. Vous ne pouvez pas comprendre la façon dont le monde a évolué à part de ce que vous lisez et ce que les autres vous disent. Vous venez d'arriver sur la planète Terre, pour ainsi dire. Pas d'une société extraterrestre, mais tout d'un coup, vous êtes arrivé, vous savez, dans ces lumières brillantes avec les médecins et tout ce genre de choses, et vous ne saviez pas vraiment ce qui se passait. Vous commencez à grandir et vous devenez adolescent, et tout ce que vous connaissez, c'est la vie que vous avez eue et que vous avez été protégé parce que vous n'avez probablement pas lu tous les journaux. Et bien que vous en ayez regardé quelques-uns, vous n'avez probablement pas regardé tous les bulletins télévisés. À l'adolescence, on commence à s'intéresser au monde qui nous entoure, à ce qui se passe. Mais il est difficile de comprendre le monde qui nous entoure. Depuis la mort de M. Meredith, notre monde a changé radicalement. Cela ne fait que 6 ans environ. Pas tout à fait 6 ans, je ne pense pas. De 2017 à aujourd'hui, en juillet, je crois. 6 ans. Et notre monde a changé de façon spectaculaire. Nous ne pouvons même pas imaginer comment le monde sera dans 5 ans. Nous parlions d'une augmentation des transports que nous avons connue au cours des 50 dernières années environ. Et nous avons également parlé de l'augmentation de la connaissance, comme il le dit dans Daniel 12, verset 4. Oui, nous parlions de l'explosion de la connaissance. Mais regardez ce que nous avons vu depuis le début de l'année. Nous avons entendu parler de l'intelligence artificielle, mais la plupart d'entre nous ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait, mais nous commençons tout juste à le découvrir. C'est tellement effrayant que certains des dirigeants de l'intelligence artificielle se disent « Oh non, nous avons peut-être créé un monstre. Nous pouvons détruire toute vie de la surface de la Terre au moyen d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires. Et maintenant, certains pensent que l'intelligence artificielle peut aussi détruire toute vie. Je pense que la plupart d'entre nous ne comprennent pas ce que ces dirigeants comme Elon Musk et d'autres comprennent. Ce qu'ils savent à ce sujet. Certains d'entre eux qui ont contribué à sa création savent quelque chose que la plupart d'entre nous ne comprennent pas. J'avoue, je ne comprends pas tout, mais plus j'en apprends sur le sujet, plus cela devient dangereux. C'est vrai. Parce que quelqu'un qui vous harcèle peut vous suivre où que vous soyez. Il peut imiter quelqu'un d'autre. Il y a des chanteurs qui s'en inquiètent, des auteurs-compositeurs. Mais ce n'est qu'une petite partie du problème. Ce n'est pas le plus grand danger. L'autre jour, un colonel de l'armée de l'air a déclaré que l'intelligence artificielle avait attaqué un opérateur par le biais d'un drone. Aujourd'hui, ils ont déclaré que cela ne s'était pas vraiment produit. Je ne pense pas que ce soit arrivé. Qui sait? Quoi que ce soit, il se passe des choses bien différentes et notre monde est en train de changer radicalement. L'explosion des connaissances ne fait que commencer. Nous pensions qu'il y avait une explosion avant. S'il s'agissait d'une explosion conventionnelle, il s'agit maintenant d'une explosion nucléaire. C'est quelque chose qui se produit si rapidement que nous aurons du mal à savoir à quoi ressemblera notre monde même dans un an. Et encore moins dans 5 ans. Mais voici, je veux revenir aux jeunes du livre de Daniel. Ces jeunes gens grandissaient dans un monde qui se transformait sous leurs yeux. Ils sont nés en Juda et ils y ont grandi. Quel genre de société était-ce? Eh bien, si l'on regarde ce que Dieu en dit à travers les prophètes, c'était un monde très corrompu. C'est pourquoi Dieu les envoya en captivité. Tout comme notre monde est un monde très corrompu, et c'est la raison pour laquelle notre nation, nos peuples, iront en captivité. Vous pourriez vous dire, « Oh, ce n'est pas possible! » Mais c'est de plus en plus possible. Il y a quelques décennies, cela nous semblait difficile à comprendre. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes au bord de l'effondrement financier si les choses ne changent pas. Je ne parle pas du plafond de la dette. Victor Davis Hanson soulignait que le rapport entre la dette et le PIB n'a jamais été aussi élevé, et je pense même qu'il l'est plus que pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme si nous devions 1,34 $ par rapport au dollar produit par le pays. C'est insoutenable. Dans quelques années, très peu d'années, 2 ou 3 ou 4 ans, 2 ans, je crois que c'est ce qu'il a dit, les intérêts de la dette nationale représenteront 10% du PIB. Ils seront supérieurs à nos dépenses militaires. Il ne s'agit que des intérêts. Et ceux-ci peuvent augmenter si les taux d'intérêt restent élevés et si certaines de ces obligations doivent être renouvelées. Les dépenses devront être plus élevées. Nous sommes sur le point de vivre toutes sortes de choses, et je pense que la plupart des gens peuvent s'en rendre compte. Notre pays est en train de prendre une très mauvaise direction. Et si les États-Unis vont mal, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne vont mal aussi. L'anglosphère se désagrège. Je pense que quiconque a des yeux pour voir peut reconnaître ce qui est en train de se passer. Eh bien, c'est ce qui arrivait aux jeunes gens qui vivaient à l'époque de Daniel. Il y avait toutes sortes de problèmes. Et Daniel et ses amis devaient décider de la voie à suivre. Suivraient-ils leurs amis? Ou feraient-ils partie des 1, 2 ou 3 % qui résisteraient à la pression de leur père et feraient les choses différemment? Parce que nous lisons dans Daniel 1, verset 3, nous constatons qu'il faisait manifestement partie des quelques pourcents qui n'ont pas suivi la foule. Dans Daniel 1, verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de familles nobles. Remarquez la description ici. Ces jeunes hommes jouaient-ils à des jeux vidéo? Je sais qu'ils n'avaient pas de jeux vidéo à l'époque, mais ils avaient d'autres types de distractions. Et quand je dis jeux vidéo, je ne parle pas seulement de quelqu'un qui joue à un jeu électronique, je parle de gens qui se laissent distraire par des choses. Il y avait d'autres tentations. Je ne sais pas quelles étaient toutes, quels étaient les jeux, quelles étaient les choses qu'ils faisaient, mais je garantis que ces jeunes gens qui ont grandi dans cette société n'étaient pas très proches de Dieu et qu'ils avaient leurs distractions. Voici donc la description. Des jeunes gens sans défaut. Vous n'avez peut-être pas grand-chose à dire à ce sujet. Beau. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas grand-chose à dire à ce sujet, mais vous pouvez vous coiffer. Vous pouvez faire certaines choses qui amélioreront votre apparence et remerciez Dieu d'avoir des cheveux. Mais remarquez, doué de toute sagesse. La sagesse est un don, mais elle s'accompagne aussi d'efforts en vue de l'améliorer. Par exemple, lire les proverbes. Pourquoi Dieu nous donne-t-il les proverbes? Pour donner aux jeunes gens de la connaissance et de l'intelligence. Nous avons donc notre rôle à jouer à cet égard. De toute évidence, ces jeunes gens ne se contentaient pas de traîner au coin de la rue en fumant du cannabis ou quoi que ce soit d'autre à l'époque, mais ils passaient du temps dans les livres. Possédant de la connaissance. La connaissance vient de l'extérieur. Vous devez aller la chercher. Et enseignable, capable de servir dans le palais du roi. Il comprenait le protocole. Il savait comment s'adresser à certaines personnes. Et quand on regarde cela, on voit quelque chose qui n'est pas intangible. Mais tout le monde ne serait pas capable de servir dans le palais du roi. C'étaient des gens qui comprenaient le protocole. Ils comprenaient comment s'habiller, comment se conduire, comment se comporter, et à qui ils pourraient enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Il s'agissait donc, manifestement, de jeunes hommes qui seraient éduqués. Ce sont ces jeunes hommes qui ont été choisis. Pas les 99 qui traînent avec leurs amis et qui font tout ce qui est mal ou qui ne font tout simplement rien. Vous savez, j'ai entendu une discussion à la radio hier en rentrant du travail. Ils se demandaient où étaient tous les jeunes hommes. Il y a plus d'emplois disponibles que nous n'en avons jamais eu, payés dans certains cas 20 $ de l'heure, 15 à 20 $ de l'heure, dans des restaurants, des magasins et d'autres endroits de ce genre. Mais où sont les jeunes hommes? On ne les trouve pas, ces adolescents. Le gouvernement veut maintenant changer la loi pour abaisser la tranche d'âge qui peuvent travailler 50 heures semaine. Vous savez, un jeune homme de 14 ans peut travailler 50 heures. Cette pratique avait cessé il y a longtemps à cause des ateliers clandestins et tout le reste. Mais aujourd'hui, ils veulent donner une chance aux gens et il y a de l'argent à gagner en travaillant. Je me souviens, je vais en quelque sorte dévoiler mon âge et certains d'entre vous sont plus âgés que moi, mais je me souviens d'avoir tondu des pelouses pour quelques centimes. Je crois qu'il y en a une que j'ai tondue au complet pour 10 cents. Et c'est une tondeuse manuelle que l'on pousse, pas une tondeuse électrique. C'est en la poussant que l'on faisait tourner les couteaux. Ce n'était pas une grande pelouse, mais je l'ai quand même tondue. Je pelletais la neige pour quelques centimes, 15 ou 25 cents, et je crois que j'ai gagné 50 cents une fois en pelletant le trottoir de quelqu'un, et c'est parce que c'était le premier jour où je l'ai fait. Quand j'ai vu qu'il y avait de l'or dans cette matière blanche, je suis sorti avec la seule pelle que j'avais, qui était une de ces pelles militaires pliables, et quelqu'un avait de la neige amassée contre sa porte, et je pense qu'il m'a payé 50 cents pour la valeur du divertissement. Mais nous avons compris qu'il y avait de l'argent à gagner. Je vous l'accorde, quand j'étais jeune, on pouvait acheter une barre de chocolat pour 5 cents. Aujourd'hui, cette même barre chocolatée coûterait, j'en ai aucune idée parce que je n'en achète pas, peut-être 2 $ ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez faire le calcul. Ce que vous achetez aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque. Lorsque j'étais au Canada, il en coûtait entre 35 et 50 $ pour faire déneiger notre entrée. C'est beaucoup mieux que 25 cents. Mais à l'époque, 25 cents, c'était un bon pourboire. Et c'est ce que c'était, un pourboire. Nous n'exigions pas un certain montant, nous prenions simplement ce qu'ils nous donnaient, la petite monnaie qu'ils avaient dans leur poche. Il y a entre 5 et 7 millions de personnes dans ce pays, des hommes valides. J'ai oublié l'âge exact, quelque chose comme 25 à 45 ou 25 à 50 ans, qui ne font rien, qui refusent de travailler. Ils n'auraient pas été présents dans le livre de Daniel. Il s'agissait d'hommes qui avaient de l'initiative. Lorsque nous lisons le 3e chapitre de Daniel, nous voyons qu'il s'agit d'hommes de caractère. C'est ainsi qu'ils ont commencé. C'étaient de jeunes hommes, des adolescents sans doute. Et pourtant, c'étaient des individus que Dieu pouvait utiliser. Il les a utilisés d'une manière puissante. Nous connaissons cette statue que Nabuchodonosor dressa et devant laquelle il demanda à tout le monde de se prosterner. Une plutôt déraisonnable, mais une demande assez directe. Je veux reprendre au verset 14, parce que Nabuchodonosor a appris que ces trois jeunes hommes ne s'étaient pas prosternés devant la statue et ils furent amenés devant le roi. Et au verset 14 de Daniel 3, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? » Le fait même qu'il les ait interrogés à ce sujet et qu'il leur ait donné un choix indique qu'il connaissait manifestement ces jeunes gens qui travaillaient dans le palais, et on a l'impression qu'il ne voulait pas vraiment les jeter au feu. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez tous les instruments de musique jouer, si vous vous prosternez et vous adorez la statue, parfait! Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Notez, encore une fois, qu'il leur a donné un choix, parce que si n'importe qui d'autre ne s'était pas prosterné, il l'aurait probablement jeté directement dans la fournaise. Nous ne savons pas où se trouvait Daniel à ce temps-là. Il était peut-être en voyage. Qui sait ce qui se passait là-bas? Mais nous pouvons être certains que Daniel ne se serait pas prosterné devant la statue. Ces trois hommes ont été dénoncés. C'est pourquoi Nabuchodonosor pose la question suivante dans la dernière partie du verset 15. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Et Shadrach, Meshach et Abednego répondirent à cette question en disant, verset 16, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. Nous avons déjà pris notre décision. Si tu poses la question de savoir quel Dieu peut nous sauver, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire, et ils disaient, « Et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Ils comprenaient qu'il y avait une résurrection. Sinon, si Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise ardente, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Si vous ne pouvez pas parler à votre employeur, ou si vous ne pouvez pas refuser de participer à quelque chose de relié à la fierté, quelle qu'elle soit, ne pensez pas que vous pourriez tenir tête à Nabuchodonosor, car il était bien plus effrayant que n'importe quel employeur que nous pourrions avoir. Il était bien plus effrayant que n'importe quel professeur que vous pourriez avoir. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être odieux et d'ouvrir la bouche à tort et à travers, mais il s'agit de faire un choix entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. De plus, je pourrais utiliser l'exemple de la dîme. Craignez-vous le créancier plus que Dieu? De qui avez-vous peur? Avez-vous la foi que Dieu peut vous aider? Le verset 19 dit que Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage. Je me souviens que lorsque j'étais un jeune homme, il y avait un homme qui ne m'aimait pas et qui voulait toujours me battre. On pouvait lui voir les veines dans son cou, tant il était en colère. Je n'ai jamais compris pourquoi il était si en colère contre moi. Peut-être que c'était à cause de mon apparence, je ne sais pas. Il ne m'aimait pas, c'est tout. C'était peut-être parce que j'étais une brute ailleurs et que Dieu me laissait découvrir ce que c'était. Robert Townsend nous livre une réflexion perspicace sur le thème de la prise de décision. Dans Daniel, les trois jeunes hommes devaient prendre une décision. Soit ils se prosternaient, soit ils mouraient. Soit Dieu intervenait, mais ils ne le savaient pas. Avaient-ils déjà vu quelqu'un être jeté dans une fournaise et ensuite être sauvé? Ils ne savaient pas comment cela allait se passer. Devons-nous supposer qu'ils ne craignaient pas Nabuchodonosor? Je suis certain qu'ils le craignaient. Mais ils craignaient davantage Dieu, n'est-ce pas? Robert Townsend fit cette judicieuse remarque. Il dit, « Les valeurs sont des guides essentiels pour prendre des décisions. En cas de doute, elles percent à travers le brouillard comme un phare dans la nuit. En d'autres termes, ce qui a vraiment de l'importance nous aide à prendre les bonnes décisions. Cela devient très clair. Je pense que lorsque nous avons quitté l'Église universelle de Dieu, pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, ce fut vraiment très simple, dans un sens. Ce n'était pas facile, mais savoir ce qu'il fallait faire était très clair. Et la raison en est que nous attachions de l'importance à ce que nous faisions. Nous accordions de l'importance à la vérité, à la parole de Dieu et à ses commandements. C'est ce qui a fait la différence. Ce à quoi nous tenions nous a permis de prendre la bonne décision. Il n'y avait pas vraiment de doute à l'époque, mais il y avait probablement des doutes quant à savoir, du moins au début, quel chemin prendre, Que dois-je faire? Mais en cas de doute, nos valeurs percent à travers le brouillard comme un phare dans la nuit. Nous avons aussi le cas de Daniel dans la fosse aux lions. Là encore, c'est assez facile. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous n'avons jamais été confrontés à un lion affamé, du moins la plupart d'entre nous. Je n'ai jamais été aussi près d'un lion. Je connais des gens qui ont entendu un lion rugir dans la nature ou à l'extérieur et qui m'ont dit que c'était terrifiant. La MGM avait un lion qui rugissait comme vidéo d'introduction. Je pense que c'était bien pire que cela dans la réalité, car tous ceux à qui j'ai parlé et qui ont été proches d'un lion qui rugit m'ont dit que c'était très impressionnant. Voici donc tous ces lions affamés, et Daniel doit faire un choix. Il aurait pu se dire, « Eh bien, je ne prierai pas, et je m'assiérai sur ma chaise, et je prierai, mais je ne me mettrai pas à genoux parce que je ne veux pas que les gens me trouvent. » Non, il a fait ce qu'il avait toujours fait. C'était une valeur pour lui. Il savait que c'était ce qu'il devait faire. Quoi que dise le roi, et Dieu l'a épargné. Permettez-moi de vous donner rapidement 4 clés au sujet du courage. Je m'attarderai sur les 2 premières et j'aborderai brièvement les 2 dernières. Il y a 4 clés au sujet du courage. La première clé est que nous devons avoir une cause plus grande que nous-mêmes. Nous devons avoir une cause plus grande que nous-mêmes. Nous voyons des hommes et des femmes charnels donner leur vie pour cette raison. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour le faire. Nous voyons cela dans la guerre. Lorsque quelqu'un met sa vie en jeu pour épargner la vie de quelqu'un d'autre, il voit une plus grande cause, même en allant au combat, en se battant. Beaucoup d'hommes partent à la guerre parce qu'ils ont été appelés sous les drapeaux. Ils ne veulent vraiment pas y aller, mais ils savent qu'ils doivent le faire. Ils font donc leur part parce qu'ils voient une grande cause. Ils veulent protéger la liberté. Ils veulent protéger leur famille et rester au pays. C'est pourquoi les gens donnent leur vie. Ils vont de l'avant avec foi. Ils font preuve de courage parce qu'il y a une cause plus grande, une raison plus grande qu'eux-mêmes. Nous voyons cela avec l'exemple du Christ dans Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Il est dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il, Jésus, se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et nous savons qu'il a prié 3 fois cette nuit-là. Il voulait éviter la crucifixion. Il savait ce qu'était la crucifixion. Il avait sans doute vu des gens crucifiés. Il savait ce qu'il attendait. Il voulait en sortir comme tout être humain le ferait. Mais il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Non seulement il craignait Dieu, mais il voyait une cause plus grande. Il était prêt à donner sa vie. Vous pouvez lire dans 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18, c'est seulement une référence. Qu'il était prêt à donner sa vie. Nous voyons qu'il était prêt à donner sa vie pour une cause plus grande afin que vous et moi puissions avoir la vie éternelle. Nous sommes très reconnaissants du courage dont il a fait preuve en agissant de la sorte. Donc, une cause plus grande est une raison d'avoir du courage ou une raison qui nous aide à avoir du courage. La deuxième clé, d'avoir la crainte de Dieu. La deuxième clé, avoir la crainte de Dieu. Dans Exode 1, nous lisons un cas intéressant. Exode 1, verset 15. Et nous commencerons verset 15. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. C'est intéressant parce que leurs noms sont mentionnés ici. Combien de personnes ne sont pas mentionnées dans les Écritures? Mais ces femmes y sont mentionnées. On a beaucoup spéculé sur le fait qu'elles étaient égyptiennes, qu'elle n'était pas israélite à cause de la façon dont cela a été dit ici. Et il dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, on perçoit une différence ici avec les femmes israélites. Elles étaient à part. Et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. elle craignait Dieu. Il est difficile de dire quel était leur passé, mais elles avaient la crainte de Dieu. Et il est difficile de dire si c'était le vrai Dieu. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux, encore une fois on perçoit qu'elles sont dans une catégorie à part, ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses. J'aime la façon dont c'est dit ici. Elles sont vigoureuses. » Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dieu les a récompensées dans cette situation particulière. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous ont entendu parler de Dennis Prager. Il est un juif et il a écrit un commentaire au sujet de la Genèse, un sur l'Exode, et il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci est sur l'Exode, il parle de cette situation. Quand je parle de Dennis Prager, je veux que nous comprenions qu'il s'agit d'un individu très, très persuasif et très logique. En fait, il a qualifié la Bible de rationnelle, mais nous devons être prudents, car il part tout d'abord d'une perspective juive, ce qui n'est pas nécessairement la bonne perspective dans tous les cas. Mais il a beaucoup de bonnes choses à dire. Et il fait cette remarque à propos des sages-femmes. Je cite, « Les gens craignent ceux qui sont plus puissants qu'eux. Les gens craignent ceux qui sont plus puissants qu'eux. » Par conséquent, la seule façon de ne pas craindre les puissants est de craindre Dieu. Ainsi, dans l'exemple rapporté ici, ceux qui craignaient Dieu ont sauvé des bébés hébreux, tandis que ceux qui craignaient Pharaon ont contribué à noyer des bébés hébreux. C'est la crainte de Dieu des sages-femmes qui les a libérés de la crainte du tyran égyptien. Ce point est souvent négligé. La crainte de Dieu est une émotion libératrice qui permet de se libérer de la peur invalidante des personnes malveillantes et puissantes. Il convient d'insister sur ce point, car de nombreuses personnes considèrent la crainte de Dieu comme un fardeau plutôt que comme une source de libération. Ainsi, si nous voulons faire preuve de courage dans les jours à venir, nous devons avoir une crainte profonde et constante de Dieu. Craignez Dieu plus que l'homme. Il doit être le numéro un, comme nous le lisons dans Luc 14, 26. Il doit être le premier. Jésus doit être le premier dans nos vies. Il a dit qu'il devait être le premier. C'était le deuxième point. Le troisième point est la foi en Dieu. Le troisième point est la foi en Dieu. Je vous renvoie à Hébreux 11 pour ce point, car les gens dont il est question dans ce chapitre attendaient une récompense. Ils voyaient la situation dans son ensemble, mais ils avaient foi que Dieu arrangerait les choses pour eux, et c'est essentiel si nous voulons être courageux. Et le quatrième point, j'ai dit que je ne passerai que peu de temps sur ces deux derniers points, et le quatrième point est que le comportement actuel est le meilleur indicateur du comportement futur. C'est le comportement actuel qui permet le mieux de prédire le comportement futur. La personne qui pense qu'elle peut simplement faire ce qu'elle veut pour l'instant et que quand le temps viendra, elle fera ce qu'il faut et se tiendra debout, commet une erreur. Il y a des gens qui font cela. Ils violent la loi de Dieu en pensant qu'ils pourront se repentir et changer plus tard. Parfois, cela ne marche pas très bien. Dieu va nous mettre à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Le courage est une denrée rare. Le courage et la lâcheté se manifestent souvent de manière inattendue pour diverses raisons. Comme je l'ai dit précédemment, le courage n'est pas statique. Il fluctue pour des raisons que nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre. Pensez à Élie. Élie s'est attaqué aux 450 prophètes de Baal. Il a confronté les prophètes qui étaient là. Il les a mis au défi. Il s'est occupé de toute cette situation. Mais Jézabel lui a dit, Demain, à cette heure-ci, j'aurai ta tête, ou quelque chose dans ce sens. Qu'a-t-il fait? Il s'est enfui comme un lapin effrayé et a couru jusqu'au sud du pays. Je n'avais pas condamné Élie, car j'ai l'impression que c'était un homme puissant. Mais n'est-il pas intéressant de constater que dans un cas, il fait preuve d'un grand courage, et dans le cas suivant, et très peu de temps après, il s'enfuit effrayé? Qu'en est-il de Pierre? Dans l'ordre inverse, Pierre a renié le Christ 3 fois, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il s'est audacieusement levé devant le Sanhédrin, et on nous dit qu'il a été crucifié la tête en bas. Que ce soit vrai ou non, c'est une tradition, et il faut se poser des questions sur certaines de ces traditions, mais apparemment, il a été crucifié ou martyrisé. Le courage peut donc naître et disparaître. Il n'est pas toujours statique. Dennis Prager, à nouveau, dans son commentaire sur le livre de l'Exode, fait cette observation. Le courage est le plus rare de tous les bons traits de caractère. Il dit qu'il y a beaucoup plus de personnes gentilles et honnêtes que de personnes courageuses. Aaron pourrait être un bon exemple. Il était peut-être gentil et honnête, mais il n'a pas eu de courage quand il en a eu besoin. Nous devrons tous faire preuve de courage dans l'avenir. Robert F. Kennedy a prononcé ce que beaucoup considèrent comme son plus grand discours, appelé « Ripple of Hope », une vague d'espoir. Il le prononça à l'Université du Cap, en Afrique du Sud, le 6 juin 1966. Il déclara « Peu de gens sont prêts à braver la désapprobation de leurs semblables. » Pensez-y. Peu de gens sont prêts à braver la désapprobation de leur père, d'être censurés par leurs collègues, la colère de leur société. Le courage moral est une denrée plus rare que la bravoure au combat ou la plus grande intelligence. Et c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'essaie de prier pour le courage. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer demain, après-demain ou dans un an. La grande tribulation ne commencera pas demain, ni même l'année prochaine, j'en suis à peu près certain, car beaucoup de choses doivent se passer avant. Notre société va dans une très, très mauvaise direction. Chaque génération a ses défis à relever. Nous n'avons pas demandé à naître au moment où nous sommes nés. Nous pourrions regarder en arrière et nous dire que c'était une meilleure époque pour naître, un peu plus tôt, mais chaque génération a ses défis à relever. Le fait est que nous sommes nés quand nous sommes nés. Nous avons été jetés dans cette situation, tout comme Daniel et ses 3 amis ont été jetés dans la situation de la fin de la nation de Juda. Et pourtant, Dieu peut nous épargner, Dieu peut travailler à travers nous, il peut nous faire faire des choses incroyables. Et si Dieu a fait des choses incroyables à travers des jeunes de l'époque, combien plus le fera-t-il à la fin des temps? Nous vivons vraiment dans les derniers jours. Comme l'a écrit Thomas Paine, les temps présents éprouvent l'âme des hommes. Et ce qui nous attend, tous, déterminera à quel point nous sommes courageux.